Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Monsieur Jean-Pierre Arafarin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes ici dans le cadre donc, d'une formation, d'un partage d'expériences avec les jeunes Ivoiriens, notamment à travers votre fondation qu'on appelle les leaders pour la paix. Pourquoi vous rencontrez les jeunes Africains, particulièrement les jeunes Ivoiriens, pour parler de paix ?
Eh bien d'abord parce que Leader pour la paix, c'est une organisation internationale, une ONG, qui est constituée de 10 anciens premiers ministres, 10 anciens ministres des Affaires étrangères, 10 entrepreneurs et 10 diplomates. Nous sommes une sorte de conseil de sécurité un peu libre et indépendant. Nous avons l'expérience des relations internationales, des difficultés, mais aussi nous avons le souci de participer un peu à un travail pour la paix. Et parmi les choses qui nous paraissent très importantes, il y en a une, c'est de faire des propositions comme un think tank, et notamment nous éditons un rapport annuel qui est très important. Et puis d'autre part, nous avons construit, avec notre directrice générale, Donia Kawash, une école de la paix itinérante, EIP, École itinérante de la paix, qui va de pays en pays à la rencontre des jeunes pour construire une pédagogie de la paix. Il y a des écoles de guerre, on apprend à se battre, on apprend à faire la guerre, on apprend les armes, mais on n'apprend pas la paix. Et donc, avec l'Institut de formation politique Amadou Koulibaly, on a pensé qu'il était utile de s'adresser aux jeunes Ivoiriens pour travailler avec eux sur ce qu'est la paix, le travail de paix. La paix, ça tombe pas du ciel, il faut la vouloir, il faut le travailler. Il faut savoir ce qu'est la diplomatie, ce que sont les relations internationales, ce que sont les sources de l'inégalité. Et aujourd'hui, le problème du genre et le rôle des femmes, par exemple dans la médiation. Et puis, on a étudié le leadership, et puis des grands sujets comme la question de l'eau, par exemple, et de toutes les questions de l'environnement. Et là, aujourd'hui, nous avions des personnalités de notre fondation, des leaders. J'ai à mes côtés Kabiné Camara, ancien Premier ministre de Guinée, avec lequel on a parlé notamment de la ressource en eau et des difficultés que nous avions à protéger la biodiversité. Mais nous avions aussi un certain nombre de responsables qui venaient pour parler plus de la diplomatie, ou des professeurs d'académie, des professeurs de Sciences Po, de Paris, des professeurs de Genève, des professeurs du Caire, qui viennent aussi développer toute une pédagogie de la paix.
Vous arrivez pour cette formation, pour ce programme, au lendemain donc, de cette adresse, on va dire de cette communication du président français sur le continent africain, notamment en ce qui concerne donc, les relations entre l'Afrique et la France. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Macron sur les relations Afrique-France ?
Là, vous interrogez l'ancien Premier ministre français, je vais donc vous répondre. Mais disons que dans notre mission, on est indépendant de ce sujet-là. L'ONG Leader pour la paix n'est pas plus française que des Guinéennes, que russes, que chinoises, qu'américaines. Nous avons tous les représentants, nous sommes une coopérative de leaders. Et donc, mais là, en tant qu'ancien Premier ministre français, je peux vous dire que je crois qu'il est important que le président de la République précise un peu les orientations, puisque le climat est un climat très tendu aujourd'hui. On a le sentiment que la guerre en Ukraine se prolonge un peu en Afrique et que le groupe Wagner fait une sorte de terrorisme contre la présence française en Afrique. Et donc il y a des incompréhensions et beaucoup de gens dans l'opinion publique française ne comprennent pas pourquoi on investit et qu'on engage la vie de nos militaires alors qu'on semble avoir un certain nombre de manifestations de rejet. Donc il fallait clarifier. Le président a clarifié, on veut des bonnes relations avec l'Afrique, on a des relations de fraternité avec l'Afrique, on ne pense pas qu'il y ait un bonheur pour la France, il n'y a pas un bonheur pour l'Afrique simultané, nous avons une véritable communauté de destin, mais peut-être que dans ces circonstances aujourd'hui, il faut faire un peu plus d'efforts sur le développement que sur le militaire. Et c'est ce que le président a donné comme orientation, d'abord participer au développement de l'Afrique pour les Africains.
Alors, vous avez échangé avec les jeunes depuis que vous êtes là. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges avec les jeunes ? Comment ils voient ces relations ?
Je crois qu'ils voient les choses de manière assez positive. D'abord, ils sont prêts à s'engager. Et là, c'est assez enthousiasmant parce qu'on voit des jeunes qui aiment la politique et ils ont des différences naturellement, mais ils veulent s'engager pour leur pays et pour leur continent et pour qu'on ait des bonnes relations les uns avec les autres. Et donc, je crois qu'ils sont très tournés globalement par les grands défis de l'avenir. Et donc, ils nous disent, si vraiment vous voulez aider l'Afrique, aidez-nous sur les grands sujets qui sont les nôtres, sur justement les questions de biodiversité, les questions d'environnement, les questions de développement durable, les questions d'intégration des jeunes dans l'emploi, les questions de sécurité, certes aussi. Mais je pense qu'on voit bien aujourd'hui, chez les jeunes, les préoccupations de l'avenir. On sent qu'un nouveau monde est en train de naître en Afrique, des jeunes qui ont conscience que leur continent va être le continent du 21e siècle. C'est là où il va se passer beaucoup de choses dans ce continent et que c'est finalement leur travail, leur rôle que de participer à ce développement. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils étaient très demandeurs de cours sur le leadership pour assumer ce leadership, mais que ce soit sur le terrain politique, sur le terrain des entreprises, sur le terrain des municipalités, sur le terrain de toutes les associations. C'est au fond une volonté d'engagement. Et je trouve que c'est important de voir qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes ont suffisamment confiance dans l'avenir pour pouvoir s'y engager.
Vous êtes quand même aussi une personnalité politique, peut-être de talent. Vous savez ce que c'est qu'aujourd'hui les relations internationales. Est-ce que vous pensez que les relations internationales ont évolué? Est-ce que de votre temps, quand vous étiez Premier ministre dans les années 2000 à aujourd'hui, est-ce que les intérêts sont divergents ou on reste dans le même monde aujourd'hui? Quelle lecture on doit faire?
On est dans une lecture de changement global. D'abord, nous sommes gouvernés par la tension entre la Chine et l'Amérique. C'est cette gouvernance-là qui nous pilote. Et la tension entre Chinois et Américains est en phase d'escalade. Et donc, tout y est aujourd'hui impliqué. Et je vois que l'Europe est très fragilisée par cette tenaille qui fait que les Américains veulent imposer leurs intérêts grâce à l'extraterritorialité de leurs lois, et les Chinois qui ouvrent leur marché en fonction de leur satisfaction politique. Et donc on a à l'Est et à l'Ouest deux pressions. On a d'autre part la guerre de l'Ukraine et cette guerre en Ukraine qui divise quand même quelque peu l'Europe. Non seulement naturellement le peuple ukrainien est la première victime, mais l'Europe est la seconde victime. Et même les relations franco-allemandes sont fragilisées. Donc l'Europe n'est pas dans une bonne passe. Et quand l'Europe n'est pas dans une bonne passe, l'Afrique non plus n'est pas dans une bonne passe, parce que la tension entre les États-Unis et la Chine va se développer également en Afrique. Et donc, je crois qu'il nous faut essayer de là d'avoir des visions qui sont des visions stratégiques. Et pour moi, la stratégie, c'est d'essayer de faire en sorte que ce couple euro-africain, ce couple continental avec le Nord et le Sud, on puisse trouver la capacité d'avoir un rapport de force avec notre Ouest et notre Est pour avoir de la souveraineté et qu'on puisse défendre nos intérêts, que l'Afrique puisse défendre ses intérêts, quitte à ce qu'on puisse avoir des discussions avec les Chinois, des discussions avec les Européens et qu'on puisse harmoniser les choses dans l'intérêt des Africains et de l'Afrique.
Alors, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y a une grande mobilisation mondiale pour cette crise, autour de cette crise Ukraine-Russie? Et contrairement à cela, il y a plusieurs pays au sud du Sahara ici qui sont confrontés à des problèmes, on a dit, de radicalisation, pour ne pas dire terrorisme, et qu'on sente moins la mobilisation. Comment on peut l'expliquer?
Bien, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les États puissants sont en train de prendre le dessus et que les États-Unis sont en train de voir qu'ils ont l'occasion de fragiliser considérablement la Russie. Et donc on voit bien aujourd'hui que Zelensky et les États-Unis essaient de mobiliser les démocraties d'un côté et que la Russie essaie de mobiliser de l'autre côté les régimes autoritaires. Donc cette guerre dépasse très largement simplement cette question de voisinage du Donbass et de la Crimée. Mais c'est une relation entre puissances du monde entier. On voit bien que M. Zelensky a fait appel récemment à l'engagement de la Chine pour la paix. On voit bien que beaucoup de gens comptent sur la Chine pour faire pression sur Poutine pour la paix. Mais on voit aussi que Poutine, lui, accuse l'OTAN d'être directement en guerre. Donc ce sont les grandes puissances qui aujourd'hui s'expriment en Ukraine. C'est pour ça que cette guerre est extrêmement dangereuse, parce qu'on a derrière... Une guerre peut en cacher une autre. On peut avoir avec la Taïwan une nouvelle Kiev. Donc nous sommes dans une situation où ce conflit peut vraiment mal tourner. Et par rapport aux autres conflits qui sont tout aussi douloureux et tout aussi tragiques, mais on n'a pas l'impression que ces autres conflits ont cette contagiosité qu'il y a dans cette guerre très contagieuse qui est la guerre Ukraine-Russie.
On a vu l'une des conséquences de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est que le continent africain a beaucoup de mal à faire face à ses besoins, on va dire, alimentaires, à remplir ses besoins alimentaires. Alors, cette interdépendance entre les États, comment on peut fructifier la chose de façon positive? C'est une bonne chose, parce qu'il y a une guerre que les populations africaines aient faim. ou n'ait pas accès à la
nourriture. Je pense que d'abord, notre intérêt, celui d'Europe comme celui de l'Afrique, c'est d'essayer de faire en sorte que cette guerre ne dure pas trop longtemps. Et donc, il faut vraiment envisager le cessez-le-feu le plus rapidement possible, parce que les conséquences seront lourdes. Non seulement on a des conséquences aujourd'hui sur les prix et l'inflation, mais on a des conséquences sur l'énergie, et on va voir d'autres conséquences qui vont venir s'ajouter à celles-ci. Donc, je pense qu'il faut d'abord que toutes les forces puissent se mobiliser pour essayer de contraindre les parties prenantes à la paix. Et puis ensuite, je ne vois pas comment on n'aura pas une solidarité qui devra s'exercer entre l'Afrique et l'Europe, et peut-être ouverte à d'autres. Peut-être qu'on pourrait s'ouvrir et à la Chine d'un côté, qui a beaucoup d'intérêt en Afrique, et peut-être aux États-Unis. Je pense que le temps est fini d'une aide qui est une aide bilatérale. Je pense que nous sommes maintenant dans un monde multilatéral. C'est le seul moyen d'ailleurs d'éviter d'avoir des contreparties qui apparaissent comme douteuses quand un pays donne à un autre. On a toujours l'impression que derrière ce don, il y a quelque chose d'inavoué. Et donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra un programme multilatéral pour aider l'Afrique, pour les Africains. Et ce programme multilatéral, il devra mobiliser un certain nombre de forces, dont les forces européennes, mais pas que. Je pense que l'Afrique n'a pas vraiment intérêt à ce que la guerre dure. Et je crois que l'Afrique ne peut pas rester observateur. Je vois qu'il y en a qui s'abstiennent, je vois qu'ils prennent des positions un peu de retrait. Je pense que plus la guerre durera, plus l'Afrique souffrira. L'Europe aussi, mais je pense que nous sommes des victimes de cette guerre également. Et donc, la fin de la guerre est une priorité pour tous.
Comment cette fin de la guerre peut être conduite? Comment l'Afrique peut apporter sa pierre, concrètement?
Concrètement,
ça passe par quoi?
Ça passe par la pression sur les belligérants. Ça passe par la pression sur Poutine. Il faut faire pression. Et on avait, dans le cadre de l'université itinérante de la paix, on avait cette analyse du Bertrand Badi sur les pressions systémiques qui aujourd'hui qui complètent les rapports de force d'autrefois. Et donc le système africain doit pouvoir faire pression sur Poutine pour aller à la paix. La guerre qui dure, c'est une guerre qui affaiblit tout le monde, y compris d'ailleurs la Russie. Donc nous devons tous faire pression. C'est pour ça que le président Macron a voulu maintenir le contact avec Poutine, parce qu'il faut bien se dire que la fin de cette guerre est une nécessité pour un grand nombre de pays. Et donc faisons ensemble pression. Ne soyons pas spectateurs de cette guerre. Il ne suffit pas de voter contre ou de s'abstenir à l'ONU. Il faut faire pression collectivement. Le multilatéralisme progresse en Afrique, et bien que ce multilatéralisme serve la cause de la paix. Il n'y a rien à gagner avec une guerre qui sera longue et pour laquelle tout le monde sortira affaibli. Nous sommes, nous, Européens, derrière l'Ukraine, engagés pour la défense de la démocratie et le respect des frontières de ce pays, mais nous souhaitons qu'à un moment ou à un autre puissent s'engager des processus de paix pour que le monde puisse retrouver les équilibres nécessaires et surtout qu'on n'arrive pas à des situations désastreuses comme ça peut être le cas éventuellement en Afrique.
En Afrique aussi, vous avez dit le nom, l'Afrique bien entendu aussi. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau phénomène sur le continent, c'est le retour de ce qui s'était passé aux heures des indépendances, c'est-à-dire les coups d'État. On assiste de plus en plus, surtout en Afrique de l'Ouest ici, des coups de force, des coups d'État qui surviennent. Quel est le regard que vous avez sur l'apparition des militaires au cœur du pouvoir sur le continent? Quelle est votre lecture?
La lecture est peut-être un peu simpliste, mais globalement, quand la violence avance, c'est que la politique recule. Et je pense que c'est la politique qui doit occuper le terrain, c'est les formations politiques qui doivent régir la politique avec suffisamment de crédibilité et de force. Parce que c'est toujours un échec de la politique quand la violence se développe. Vous savez, les Grecs, ils ont inventé la politique pour faire en sorte que les gens vivent ensemble. Et donc, aujourd'hui, partout où on voit de la violence, y compris en Europe, c'est un échec de la politique. Et donc, il faut revitaliser la politique. Et c'est ce que nous faisons avec l'école itinérante de la paix, avec Leader pour la paix, c'est de convaincre les jeunes qui s'engagent, mais qui s'engagent avec des convictions et qui s'engagent avec la nécessité de travailler la paix, de ne pas faire confiance à la paix toute seule. Il y a tellement d'intérêts, il y a tellement de professionnels de la guerre. L'industrie de l'armement est devenue si forte qu'il faut beaucoup d'énergie pour travailler pour la paix. Et c'est l'objet de ce que nous faisons avec l'Institut Amadou Koundé-Coulibaly.
Alors, dernière question, vraiment la toute dernière. Comment on doit repenser les relations Afrique-France, selon vous?
Je pense qu'il faut mettre le développement en priorité. Certes, il y a des pays qui ont besoin de sécurité. Ceux-là, s'ils le souhaitent, ils peuvent compter sur la France. Mais globalement, l'action de la France sur le continent africain, ça doit être un pôle qui aide au développement. Et c'est le développement aujourd'hui, parce que l'objectif principal, c'est de faire en sorte que ce milliard de jeunes qui, d'ici la fin du siècle, doit être intégré, pour qu'il aille vers l'emploi et pas vers le terrorisme. Donc nous devons mettre tous les efforts possibles pour aider au développement de l'Afrique pour les Africains. Et ça, certes, la France doit s'y mobiliser, mais aussi d'autres pays doivent le faire. Donc je pense que un peu moins de militaires, un peu plus de développement, c'est un axe qui peut être un axe qui a du sens, ce qui ne veut pas dire qu'on va lâcher les amis qui nous le demandent d'être un des soutiens en matière de sécurité.
Est-ce que c'est facile d'être l'ami des Chinois et puis d'être en Europe et d'être français ? C'est compris.
Moi, je ne suis pas ami des Chinois. Je respecte le peuple chinois, mais je suis ami de la France. Je suis proche de la France. Je défends les intérêts de la France. Et donc, comme la Chine est le premier marché du monde, je défends les entreprises françaises. Et donc, nous sommes très satisfaits de voir que L'Oréal, que Kering, que LVMH, que Michelin, que Schneider, que Sanofi et que beaucoup d'autres sont très, très forts en Chine. Donc, nous avons besoin, pour être mondial, d'être très présents en Chine. Mais vous savez, je ne suis pas communiste et je ne serai jamais. Donc, je ne suis pas un ami du régime chinois. Il se trouve que le peuple chinois est un peuple très intéressant et que, d'une manière générale, je respecte les peuples. Je peux combattre les régimes, mais je respecte les peuples. Je crois que chaque peuple a sa légitimité et que, quel que soit le continent, les peuples doivent être respectés.
Monsieur Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie. Merci de nous avoir accordé cette interview sur Radio de la Paix et très bon séjour à vous en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup et vous avez quand même le plus beau de tous les noms, Radio de la Paix. Merci de votre action.
Merci beaucoup.
Ben Diakité. Réalisation Antoine Kouassi.
Vous venez de suivre la grande interview.